Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans le Libre Journal de la Transmission. Pour une heure et demie ensemble, très joyeuse, je suis très heureuse de vous retrouver avec trois parties distinctes. La lecture en question pour commencer, prendre soin des mères d'enfants handicapés et pour finir, Saint François d'Assise en Canta Storia avec le cœur Effata. Tous ces mots s'éclaireront au fur et à mesure. Et pour commencer, j'ai la grande joie de recevoir dans le studio Jean-Pierre Maugendre.
Merci de m'accueillir, bonjour à tous.
Grande joie aussi d'aborder cette question qui nous touche tous les deux en profondeur, la lecture à travers ce livre que vous avez édité chez Via Romana, qui prend la suite de l'obéissance en question, qui était paru en avril 2025, et qui précède deux ouvrages en préparation, La Nouvelle Droite en question et La Royauté du Christ en question. Je rappelle pour les auditeurs qui viennent de naître, comme disait Jean Ferré, Jean-Pierre Maugendre, vous êtes l'ancien président du mouvement catholique de la jeunesse française,
mouvement de la jeunesse catholique de France.
De la jeunesse catholique de France, MJCF, directeur de l'association Renaissance catholique, animateur de l'émission Terre de Mission sur TV Liberté, conférencier et auteur. Alors, la lecture en question dans ce petit livre qui est un condensé, chers amis, qui est un essentiel, vous abordez cette fragilité de la lecture aujourd'hui et pourtant, vous évoquez sa puissance. J'ai été très touchée au départ, première page, à Jean Madiran qui m'a appris à lire un texte. J'ai même été émue, je vous dirais. Donc pourquoi avoir mis cet exergue ? Qui sont vos maîtres, Jean Madiran, et dites-nous.
Alors Jean Madiran, quand je dis dans cette exergue qu'il m'a appris à lire un texte, voilà, chacun d'entre nous a une formation de base par l'école qui va lui apprendre à lire. Et donc j'ai eu la grâce de faire des études chez les Frères des écoles chrétiennes, puis en collège diocésain et enfin en lycée militaire avec des professeurs qui m'ont appris à lire, qui m'ont initié à la littérature française. Et puis à côté de ça, et c'est pour ça que j'en ai fait cette dédicace, je crois que l'homme qui a contribué de la manière la plus déterminante à ma formation intellectuelle, c'est Jean Madiran. Donc pour nos auditeurs et téléspectateurs, donc Jean Madiran est le fondateur en 1956 de la revue Itinéraire. Voilà. Revue qui est une revue mensuelle, il y a 10 numéros par an, puisque pendant l'été il y a une petite pause, et qui en fait se positionne dans la tradition intellectuelle qu'on pourrait qualifier de contre-révolutionnaire. Voilà, il se met dans la filiation de Louis Veuillot, du cardinal Pie, de Monseigneur Frépel, du père Le Floch, de Don Guéranger. Voilà, donc c'est toute cette filiation intellectuelle. C'est un thème auquel il était très attaché. Nous sommes des héritiers. Voilà, et il se trouve donc que mon père. Donc la revue est fondée en 1956. En 1956, il y a deux événements. Il y a la fondation d'Itinéraire et puis il y a ma naissance. Voilà,
donc je suis... voilà, vous voyez, j'ai commencé par l'invité le plus modeste.
Et donc, mon père était abonné de fondation d'Itinéraire. Et donc, j'ai toujours... toujours vu itinéraire à la maison. Ouais. Et quand j'ai commencé à m'intéresser un peu aux questions de fond, donc à partir de 12-13 ans, ben, y avait itinéraire tous les mois à la maison, que je lisais, avec lequel j'échangeais avec mon père. Et puis quand je suis parti comme pensionnaire en lycée militaire à Brest, eh bien là, j'ai fait la rencontre du MJCF. Et la lecture qui était recommandée de manière prioritaire au MJCF, c'était itinéraire. Mmh. Voilà. Donc, j'ai lu tous les mois, à partir de mes 15 ans, jusqu'à la disparition de la revue dans les années 90, cette publication, donc, qui rassemblait des intellectuels. Alors, les personnes que j'ai citées tout à l'heure, elles étaient décédées, mais à la même époque, donc on avait Jean Madiran, François Brignot, Huker Ali, Marcel Decorde, Gustave Thibon, et puis Don Gérard Calvet, donc le fondateur de l'abbaye du Barou, qui signait sous un autre nom. Et on avait là donc une école intellectuelle qui m'a formé. Je crois beaucoup à l'expression les scolastiques, l'emploi, qui m'a donné une forma mentis, c'est-à-dire un tour d'esprit. Nous ne sommes pas étrangers à nos lectures, c'est-à-dire que des auteurs ou une famille d'esprit à laquelle on se familiarise pendant des années, eh bien, au bout d'un certain temps, elle nous donne des réflexes, et les réflexes qui sont les miens aujourd'hui, intellectuels, sur lesquels chacun portera le jugement qu'il veut, ils sont le fruit de cet habitus.
Ben, il est bon que vous ayez rappelé tous ces noms, notamment pour nos jeunes auditeurs. Et c'est ce que vous faites aussi au fil du livre. Vous donnez beaucoup de références ou un petit clin d'œil ici, un petit clin d'œil là. Et vous le voyez, chers auditeurs, je vous le dis, c'est un livre qui se lit vite, mais qui ouvre énormément de portes. Donc ensuite, à chacun d'aller les pousser selon ses aptitudes, sa soif.
Ses centres d'intérêt.
Et voilà, et ses centres d'intérêt. Nous y reviendrons, mais outre les ouvrages de doctrine, vous évoquez aussi le roman, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parlons-en tout de suite. Oui, dans ces lectures, vous, quels sont les romans qui vous ont aussi façonné, et pourquoi ?
Alors, les romans, donc, plus jeunes, je dirais, j'ai beaucoup lu Jules Verne. Et puis après, à l'adolescence, et puis encore aujourd'hui, voilà, moi, il y a deux romanciers, qui m'ont vraiment marqué. Je suis vraiment très touché par l'œuvre de Bernanos. Alors, Bernanos, ce qui me touche, c'est Bernanos, c'est sa foi, et puis aussi, c'est sa vigueur. Voilà, on n'est pas dans un christianisme à l'eau de rose, tiédas, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, Jésus nous aime, embrassons-nous, Folleville. Quoi. Voilà.
Le mal est présent.
C'est pas du tout la spiritualité de Bernanos. Et puis, alors, dans les auteurs contemporains, je trouve qu'il y a deux romanciers qui sont des romanciers étrangers qui posent sur le monde dans lequel nous vivons un regard tout à fait éclairant. C'est Eugenio Corti. Eugenio Corti, qui est un Italien. Alors, son ouvrage le plus connu, c'est Le Cheval Rouge, bien sûr, qui est une somme de 1000 pages, dans lequel il raconte la vie d'un petit groupe d'Italiens qui sont mobilisés sur le front de l'Est par l'Italie, donc, qui est alliée de l'Allemagne à l'époque. Et puis, un certain nombre reviennent. Et puis, c'est la vie dans l'Italie d'après-guerre, la démocratie chrétienne, etc.
Donc ça se lit, c'est 1000 pages,
Pense qu'il y a aussi un intérêt, c'est de porter sur la guerre, sur le front de l'Est, un regard qui soit un regard catholique. Parce qu'il y a une multitude d'ouvrages sur le sujet. Je pense aux romans, c'est pas des romans, c'est un peu de l'histoire, voilà. Aux ouvrages de Jean Babir ou de Saint-Loup, qui sont vraiment marqués par un paganisme tout à fait désagréable. Là, je crois, on a une vision d'un engagement catholique dans ces événements dramatiques. Et puis Eugenio Corti, ça n'est pas que ça, parce qu'il a écrit aussi, par exemple, L'île Paradis. Donc, L'île Paradis, c'est... là, on renoue avec l'histoire, c'est les révoltés du Bounty. Voilà, les révoltés du Bounty. Donc, le capitaine, le commandant est insupportable, ça, tout le monde en est d'accord. Et donc, ils finissent par se rebeller, et puis par se mutiner, pour reprendre l'expression consacrée. Ils mettent le fameux commandant sur une petite barque, avec les gars qui veulent le rejoindre. Bon vent, bonne mer. Comme c'est un bon marin, il a mauvais caractère, mais c'est un bon marin. Les deux sont pas ni incompatibles, ni antagonistes. Ouais. Il finit par arriver, et puis eux, ils disent, bon ben voilà, maintenant, nous, c'est la liberté. On est au moment de la Révolution française, donc on est dans la philosophie des Lumières, etc. Et donc, ces marins disent, bon allez, maintenant, plus de chef, plus de contraintes, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont au niveau de la Polynésie, on va récupérer des Tahitiens, des Tahitiennes, et puis on va aller sur une île, et comme l'homme est naturellement bon, qu'il n'y aura plus de chef, ça va être le paradis. Et Eugenio Corti montre que c'est une catastrophe, parce qu'ils finissent par se battre avec les Tahitiens, en partie à cause des Tahitiennes, bien évidemment. Et puis après, ces matelots se battent entre eux, pour justement, à cause des Tahitiennes, ils sont pour rien. Mais finalement, il reste un survivant. Et le message que fait passer Eugenio Corti, c'est de dire, le mal, il n'est pas dans le système, il est au fond du cœur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est une idée fondamentale. C'est une idée profondément révolutionnaire de croire que l'on change l'homme par les structures. On change l'homme par la grâce, et puis on essaye de le cadrer par les structures. Donc un auteur, vraiment un romancier, qui pour moi est un grand romancier, c'est Eugenio Corti, alors il a écrit d'autres choses. Et le deuxième, c'est Michael O'Brien, donc qui est un Canadien, anglophone, dont l'ouvrage le plus connu est « Père Elijah ». Et puis il y a un deuxième, donc Père Elijah, c'est un peu la situation dramatique dans laquelle nous vivons, c'est le pape envoie le Père Elijah pour annoncer à l'homme qu'il considère comme l'antéchrist, qui va devenir le président de l'Union mondiale, etc., qu'il faut qu'il arrête de prétendre à la domination mondiale. Donc il y a Père Elijah à Jérusalem, et l'autre roman que j'ai beaucoup aimé, c'est Une île au cœur du monde.
Ah, vous l'avez beaucoup aimé, oui.
Ah oui, alors c'est pas drôle, non. Une île au cœur du monde, mais c'est aussi très beau. Et donc l'œuvre de Michael O'Brien, c'est une quinzaine de romans.
Oui, tout à fait. Le fou de New York, etc.
Le fou de New York.
Oui. Et lui-même, c'est un homme de transmission. Extraordinaire de lire ce qu'il écrit sur la lecture et la transmission dans sa famille nombreuse.
Et puis c'est un homme très attachant.
Oui.
J'ai eu la
donc
grâce
ça, ce
de
sont
le
vos deux romanciers. Vous parlez de Balzac aussi au moment du roman, lorsque vous évoquez les descriptions, la description de l'âme humaine. C'est ça aussi le roman.
Alors c'est ce qu'apporte le roman.
J'ai insisté
sur deux aspects. Ça nous permet de découvrir d'autres cultures, alors que ce soit d'autres cultures dans le temps, nous replonger, Balzac, c'est la comédie humaine, c'est la France du 19e siècle, etc. Et aussi dans d'autres cultures, d'autres mondes, d'un point de vue géographique. Voilà. Donc le roman, me semble-t-il, c'est le premier avantage, on découvre autre chose. Et puis, le deuxième point que j'évoque aussi, vous venez de le formuler, ça nous permet d'explorer les méandres de l'âme humaine. Et ça, c'est à la fois passionnant et sans fin. L'avarice, vous lisez le Père Goriot et vous découvrez ce qu'est l'avarice. Et c'est à mon sens aussi où le roman qui nous permet d'explorer l'âme humaine, il nous aide à nous comprendre, peut-être à nous supporter si nécessaire, et puis aussi à comprendre les autres. Ça n'est pas qu'une distraction purement intellectuelle, sans conséquence sur la vie quotidienne.
Absolument. Le pape François a eu un très bel écrit sur le roman.
Oui, il a écrit, j'ai vu
magnifique.
Ça.
Magnifique. Ouais. Ça c'est un écrit intéressant. Dans ce livre, vous plaidez pour la lecture. Pour la lecture avec un crayon en main, pour la lecture qui développe l'esprit critique. Mais vous dites, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs comment se situer par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, on dit les enfants ne lisent plus, on en parle à l'impératif. Quelle est votre position,
alors,
Jean-Pierre Mogendre?
Je vois plusieurs intérêts à la lecture comme moyen. Le premier point, c'est notre intelligence. Elle est faite pour découvrir la vérité. Elle est faite pour savoir ce qui est. Et puis elle est faite aussi, notre intelligence, pour répondre aux grandes questions que nous nous posons. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est mon destin? Y a-t-il une vie après la mort? Ça, c'est des questions que votre hamster ne se pose pas, mais que vous vous posez. Je crois la lecture, elle nous permet de cheminer pour trouver des réponses à ça sous deux aspects. D'abord, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça avant nous, dont un certain nombre n'étaient pas que des abrutis, donc on peut espérer bénéficier de leur réflexion et puis de leur expérience. Et puis d'autre part, par cette lecture, ça me permet de voir dans le temps les gens qui ont réfléchi, et puis aussi de regarder l'enchaînement logique de tel ou tel raisonnement, voilà, que moi je n'arriverai pas à faire tout seul. Ben, y a des gens qui ont réfléchi avant, je bénéficie des éléments de réponse qu'ils peuvent donner à ces questions existentielles. Le deuxième point aussi, je crois pour un catholique que je suis, que j'essaye d'être, voilà, notre vocation sur Terre, bon, c'est les fondements de Saint Ignace de Loyola. L'homme est créé pour aimer, louer, servir Dieu et par cela sauver son âme. Tout à l'heure, on a parlé du pape François. Le pape Léon vient de mettre, je crois, enfin, a fait une déclaration là au mois de novembre à des séminaristes péruviens très intéressante. Il nous dit, je le cite, la piété sans doctrine se mue en une fragile sentimentalité. La doctrine sans prière devient stérile et froide. Voilà. C'est-à-dire que pour un catholique, notre vie spirituelle, si elle n'est pas nourrie, si elle n'est pas charpentée par l'étude et donc par la lecture, eh ben ça risque de devenir, comme le dit le pape, un sentimentalisme fragile. Et puis enfin, la lecture, elle doit me permettre deux autres choses. Tout d'abord, de mener ma vie. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est confronté à des décisions à prendre. Bon, ben, ces décisions à prendre, il y en a qui sont objectivement bonnes, objectivement mauvaises. Et je cite le général Mattis, là, qui fut un des secrétaires d'État à la défense de Donald Trump, il dit... Il a commandé des troupes américaines en Afghanistan, donc c'est pas n'importe qui. Il dit, voilà, dans ma vie... Je n'ai jamais été confronté à une situation qui n'ait pas été sans analogie avec des situations qu'avaient déjà vécues mes prédécesseurs. Mmh. Et en regardant par l'étude, en regardant en particulier dans l'histoire, la manière dont ils ont traité ces difficultés, analogue à celle que je vis aujourd'hui, ben ça me permet d'en tirer des enseignements. On dit, ben là, ça, c'était une bonne décision. D'ailleurs, on en a vu les conséquences. Ça, c'était une mauvaise décision. On en a vu les conséquences. J'essaye de les éviter. Voilà, je crois que ça aussi, c'est très concret.
Donc, concrètement, l'abandon de la lecture, l'abandon aux références passées, nous met particulièrement en danger parce qu'on ne bénéficie plus de cette expérience et l'esprit critique est en danger, donc.
L'esprit critique est en danger et quand on n'a plus les moyens de... Alors, l'expression est bien connue, plus on connaît, plus on est libre. Mmh. C'est-à-dire que plus on voit les conséquences des choix que l'on pose et plus on a de connaissances, plus on est libre. Donc ça rejoint ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est frappant, nous sommes au cœur de l'actualité. La situation iranienne, les relations de l'Iran avec Israël, d'une part. Les relations de l'Iran avec les monarchies sunnites de la région. Mais c'est une histoire qui se gère sur des siècles et sur des millénaires. C'est d'ailleurs aujourd'hui, certains sont surpris de voir la position de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis par rapport à l'Iran, en disant « mais on ne comprend pas, tout ça, ils sont musulmans ». Mais mon ami, c'est dans l'histoire. Ils sont, et je rappelle qu'il y en a qui sont des Arabes, les autres sont des Perses. Et les Perses n'ont jamais tellement accepté la domination que les Arabes leur ont imposée pendant un certain nombre de siècles. On est dans l'histoire longue. Mmh. Il n'y a que l'histoire longue qui ne permet de ne pas être présent de deux choses qui aujourd'hui polluent les intelligences, l'immédiateté et l'image. Voilà. Eh bien, la lecture... En plus, j'ai pas le poids de l'image qui risque d'obscurcir mon intelligence. Eh bien, la lecture me permet de prendre du recul et de poser un jugement aussi éclairé et rationnel que possible.
Et de la faire mienne. Le temps passe vite, notre entretien est court, mais c'est toujours très dense avec vous, Jean-Pierre Maugendre. Ouais. J'ai deux questions auxquelles je tenais beaucoup. Par votre long travail de transmission, on l'a vu dans la présentation que j'ai faite de vous tout à l'heure, je voudrais que vous nous disiez quelle évolution vous repérez dans tous les jeunes qui viennent à vous, dans vos différents mouvements. Dites-nous ce que vous percevez.
Alors, ce que je perçois, je crois qu'on vit les conséquences ultimes. C'est un très bel ouvrage de François-Xavier Bellamy qu'il faut que nos auditeurs et téléspectateurs lisent, c'est « Les déshérités ». Voilà, les déshérités. C'est-à-dire, nous arrivons aujourd'hui, la jeunesse dont on nous parle, elle est déshéritée. C'est-à-dire que la génération de ses parents a fait le choix de ne pas transmettre. Elle avait reçu.
Eh oui.
Elle avait reçu. Les gens connaissaient les humanités, un certain nombre s'étaient familiarisés, avaient fait. Aujourd'hui, voilà, les bons élèves, il y a 60 ans, tout le monde faisait du latin et du grec. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, quand vous dites que vous faites du latin, d'abord, c'est pas possible, mais sauf des établissements bien
libre.
Particuliers.
Ouais.
Je crois que cette, ce qui caractérise cette génération, elle est déshéritée, mais je crois aussi pour un certain nombre, et ça c'est un motif d'espérance, elle en a conscience.
Elle a soif.
Elle découvre, alors moi je l'ai vécu, vous avez eu la gentillesse de parler du MJCF tout à l'heure, voilà, moi j'ai 20 ans, j'ai reçu un certain nombre de choses, comme je vous l'ai évoqué, par la lecture d'itinéraire, par ma famille, etc. Mais une bonne partie de cette génération, elle n'a rien reçu, et elle découvre une histoire, un patrimoine, une tradition et des richesses qu'on lui avait cachées. Je pense en particulier, on en a un exemple très concret, c'est le développement, c'est banal de le dire, mais parfois il faut rappeler des banalités. Voilà, le développement, l'essor des pèlerinages de Pentecôte, le pèlerinage de Chartres. Quand vous interrogez les jeunes qui sont là, c'est incroyable, quoi. Que c'est beau, que c'est beau. Et on m'avait caché tout ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est on m'avait caché, mais un certain nombre sont conscients qu'on leur a caché et cherchent à le découvrir. Et là, je crois qu'il y a une responsabilité des plus anciens.
Et du coup, ce sera ma dernière question, mais elle est vraiment importante. Je pense que c'est un tremplin pour beaucoup de soif à étancher. Quelqu'un qui nous écouterait, qui dirait « Mais moi, j'ai un peu perdu l'habitude de lire, ou je ne l'ai jamais acquise, j'ai soif, j'ai 20 ans, je veux découvrir. » Comment, vous, Jean-Pierre Maugendre, qu'est-ce que vous proposeriez comme premiers ouvrages ?
Alors, comme premiers ouvrages, il faut partir d'autre chose. Cher ami, qu'est-ce qui vous intéresse ? Cher ami, qu'est-ce qui est important pour vous ? Eh bien, vous cherchez à comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, lisez tel ou tel livre d'Emeric Choprade. Vous êtes en recherche sur la foi, eh bien, lisez l'ouvrage de Mgr Schneider que nous avons édité. Voilà. Il faut partir. Si lire vous coûte, la première question que vous devez poser, c'est qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce que j'ai envie d'approfondir ? Et en fonction de ce que vous avez envie d'approfondir, de trouver un livre, là vous pouvez pianoter sur internet, vous pouvez aller regarder le livre puisque je donne quand même un nombre important de références. Mais voilà, si c'est difficile, si ça coûte, commençons par ce qui nous intéresse ou par ce dont nous avons besoin. Voilà, mes enfants, oh là 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 là, j'ai du mal. Et bon, allez lire tel ou tel livre concernant l'éducation ou sur le mariage. Voilà, je comprends pas très bien si ou ça. Voilà, partir de ce qui nous intéresse, prendre le goût par ce qui nous intéresse, de manière à s'orienter peut-être à un moment, non pas uniquement sur ce qui nous intéresse, mais sur ce dont nous avons fondamentalement besoin.
Donc, chers amis du Libre Journal de la Transmission, je vous renvoie à cet excellent livre de Jean-Pierre Maugendre, La lecture en question. Il est paru en janvier 2026 aux éditions Via Romana, comporte 80 pages. C'est un petit format, 15 sur 10, 9 euros. Vous pouvez l'offrir, vous pouvez le transporter, le prêter. Il ne reviendra pas, vous en rachèterez un autre. Et puis, en effet, c'est un point de départ vers beaucoup de livres de référence, une petite bibliothèque jeunesse qui est très bien faite. Merci d'avoir cité 1, 2, 3 loisirs dans vos clés pour trouver les bons livres aussi pour les enfants. C'est exactement la même chose pour les plus jeunes. Qu'est-ce qui t'intéresse ? On part de là, il ne s'agit pas d'arriver de manière abstraite et désincarnée. Eh bien, chers amis, bonne lecture à tous et merci beaucoup Jean-Pierre Maugendre.
Merci de m'avoir accueilli, bonne lecture à tous.
Merci. chers amis du Libre Journal de la Transmission, vous voici au cœur de notre émission de ce lundi 2 mars et vous venez d'entendre le chant de la promesse. Je trouve que c'est une très belle transition entre Jean-Pierre Maugendre et tout ce qu'il fait pour la transmission et la fidélité et mes deux invités qui nous viennent de l'Office chrétien des personnes handicapées. Et là aussi, je pense que le chant de la promesse résonne de manière toute particulière. Je vous présenterai davantage cet extrait tout à l'heure avec Rogatien d'Espagne qui sera là en troisième partie d'émission et à qui nous devons cette harmonisation et cet enregistrement. Donc je suis très heureuse de vous recevoir dans le studio, mes deux invitées suivantes, Sophie Gérardin. Bonjour Sophie.
Bonjour Valérie.
Vous êtes écoutante au service Écoute et Conseil de la Fondation de Office chrétien des personnes handicapées, on va dire OCH, chers amis, à partir de maintenant. Vous êtes responsable de la journée des mamans, c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui. On voudrait vraiment pouvoir dire aux mamans de personnes handicapées ou malades qu'elles peuvent avoir des sources, et en voilà une magnifique. Anne Talbourdel, merci beaucoup d'être là, Anne.
Bonjour Valérie.
Vous êtes mère de famille nombreuse, professeure de lettres classiques. Vous avez mis entre parenthèses votre carrière pour élever vos enfants. Vous êtes chantre titulaire, je voulais le dire aussi, en chant liturgique.
Absolument.
C'est un lien avec notre troisième partie. Et responsable de l'accueil des familles en deuil à la paroisse Saint-Léon.
Oui.
Beaucoup d'engagements qui sont dans le lien. Voilà, j'étais impatiente de vous rencontrer en ayant lu tout ce que vous m'avez écrit pour vous présenter. Puisqu'on est dans la présentation de l'Office chrétien des personnes handicapées, Sophie Gérardin, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est l'OCH ?
Donc l'OCH est une fondation au service des personnes concernées par le handicap, quel qu'il soit, que ce soit le handicap mental, physique, le trouble psychique, voilà, les maladies neurodégénératives. Donc, dans le but vraiment d'accompagner et soutenir les personnes concernées et tout particulièrement aussi leurs familles, donc les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. En fait, l'OCH a été fondé il y a plus de 60 ans par Marie-Hélène Mathieu, qui était à l'époque éducatrice spécialisée et qui, dans le cadre de son travail, a constaté cette grande solitude des familles, ce grand besoin de lieux, d'être rejoints, d'être soutenus. Il y a ces familles qui se sentaient très isolées et qui, pour aujourd'hui encore, pour beaucoup, se sentent isolées. Donc voilà, pour répondre à ça, la Fondation met en place trois moyens principaux. D'abord, un service d'écoute dont je fais partie, le service écoute et conseil. On est quatre écoutants. Voilà, donc le téléphone, c'est le 01 53 69 44 30.
Répétez-le lentement pour nos auditeurs.
Voilà. 01 53 69 44 30.
On le répétera au cours de l'émission si vous le souhaitez. Donc c'est un service d'écoute qui est basé à Paris, j'imagine, mais on vous appelle de partout.
Exactement, oui, on est basé à Paris, mais c'est un numéro national, donc oui, les appels viennent de toute la France.
Il y a des antennes de l'OCH ailleurs en France ?
Alors on a une antenne à Lourdes. Là, c'est un accueil particulier dans le sanctuaire.
Donc, d'accord.
Voilà. Et on a ensuite des événements qui sont dans toute la France. Voilà, donc on a une soixantaine d'événements par an.
Ah ouais.
Les événements, ça peut être des journées dédiées pour les mamans. On en reparlera tout à l'heure. Ça peut être aussi des événements pour les papas. Hein, le papa, on fait plutôt des randos, des papas, parce que c'est vrai que pour parler, les papas ont besoin de marcher.
Ouais,
exactement, ça les aide. Il y a aussi des groupes de parole, on a des conférences. Hein, on a une conférence là à Lyon la semaine prochaine sur la vie affective et sexuelle des personnes avec handicap. Donc, osons parler d'amour, c'est le thème de cette conférence. Qui sera
Nos auditeurs veulent retrouver toutes ces informations, dites-nous tout de suite où elles le peuvent.
Alors, OCH.fr, tout est disponible sur le site OCH.fr. Effectivement, je ne vais pas vous présenter les 60 événements de la Fondation.
Non, mais il est bon qu'on voit qu'il y a tout ça.
N'hésitez pas, oui.
Ouais.
Et ensuite, le troisième moyen pour rejoindre les personnes concernées ou leur famille, c'est notre revue « Ombres et Lumières ».
Ombres et Lumières,
voilà.
C'est une merveille ce magazine, je ne lis pas tous les mois, hein, mais à chaque fois que je l'ai eu entre les mains, et je l'ai beaucoup eu entre les mains il y a quelques années, enfin il y a de nombreuses années, je trouvais que c'était toujours pépite. Et ce que je vois, c'est qu'en dépit des décennies qui sont passées, c'est toujours pépite. Ombres et Lumières, ce n'est pas spécialement un journal spécialement écrit pour les personnes handicapées et leurs familles, c'est extrêmement large.
Ah oui, c'est très large. Donc, effectivement, les personnes concernées et leurs familles y trouvent beaucoup de voilà, conseils pratiques, articles de fond, chroniques. Donc, vraiment, pour elles, c'est un trésor. Hein, elles nous le partagent. Mais je suis d'accord avec vous. Moi-même, ma famille était abonnée. J'ai toujours vu ça sur la table de la salle à manger chez mes parents, alors qu'on n'était pas concernés.
C'est ça.
Voilà. Donc, c'est sûr que ça rejoint très largement. Mais c'est aussi un beau support concret pour les personnes concernées et leurs familles.
Il y a une phrase qui me passe dans la tête, là, depuis que vous parlez, Sophie Gérardin. C'est le titre d'un livre de Marie-Hélène Mathieu. « Plutôt que maudire l'obscurité, allumer une lumière ». C'est beau et ça s'applique à tout.
C'est vrai.
Ça s'applique à tout. C'est extraordinaire. Ouais. C'est une vraie lettre de mission pour nos vies. Ouais. Et vous, Anne Talbourdel, j'aimerais que vous nous présentiez les Journées des Mamans que vient d'évoquer Sophie Gérardin.
Oui, alors c'est un événement qui s'adresse donc à toutes les mamans qui sont concernées par le handicap. Et j'avoue que pour ma part, je n'étais pas très sensible à ce genre d'événement parce que au handicap, je ne voulais pas ajouter la lourdeur de rencontres concernant encore le handicap. Et Sophie a su m'attirer, non pas dans un piège, mais dans ce qui s'est révélé pour moi un magnifique moment en me demandant de témoigner. Comme maman. C'était un biais comme un autre pour assister à cette journée.
Vous l'aviez déjà fait, Anne. Dites-nous, vous êtes maman d'une jeune fille handicapée.
Je suis maman d'une jeune fille handicapée qui est porteuse d'une maladie rare, microdélétion d'un chromosome. Mais à cela s'ajoute beaucoup de traits autistiques et une déficience mentale qui fait que c'est une jeune fille aujourd'hui de 20 ans. C'est notre cinquième enfant. Qui est totalement dépendante. Totalement dépendante, elle a une forme d'autonomie très restreinte liée à sa survie.
Et donc c'est vous, elle dépend de vous.
Oui, elle dépend de nous. Elle est bien sûr prise en charge hein, depuis qu'elle est toute petite dans des établissements. Voilà, mais c'était, ce handicap nous a conduit, évidemment, par la suite, peut-être à témoigner et... Et voilà.
Et lorsque Sophie Gérardin, ici présente, vous a proposé de témoigner dans ces Journées des Mamans, est-ce que c'était la première fois, Anne Talbourdel, que vous mettiez des mots sur votre vie ?
Oui, comme maman et plus comme parent, parce qu'on avait pu témoigner avec mon mari à différentes reprises. Mais là, ça me concernait directement. Et comme maman, j'ai pu opérer un retour ou avoir un regard intérieur sur ce que j'avais vécu comme femme, comme mère, comme épouse. Et ça a été une expérience révélatrice pour moi. Qui m'a permis de progresser et d'avancer considérablement. Donc, et tellement que finalement, je suis restée un peu dans ces journées des mamans, un peu dans l'organisation. Et quand on organise, on participe aussi. Donc c'est... je recommande vraiment. Alors que j'étais rétive au premier abord, je recommande ces journées pour toutes ces femmes qui ont besoin d'être une fois reçues. De cette manière-là.
Et un peu choyée aussi, peut-être, Sophie Gérardin.
Anne disait, j'étais un peu rétive au départ. C'est vrai que souvent, hein, les mamans nous partagent que, oulala, elles viennent la première fois, une amie leur en a parlé, elles viennent pour accompagner quelqu'un, pour répondre à... J'ai rencontré il y a 2 jours une maman qui est venue l'année dernière. Pour la première fois, elle m'a dit « Bon, je suis venue parce que ma belle-fille m'en a parlé, je ne voulais pas lui faire de peine. » Mais je venais à reculons. Quand je suis arrivée, je me suis demandé ce que je faisais là. Et cette même maman me dit, ça a été extraordinaire pour moi. C'est la première fois de ma vie que j'ai pu déposer quelque chose que j'avais vécu avec mon enfant. C'était un handicap psychique, donc maman d'un certain âge, donc une époque où
on n'en parlait pas beaucoup. Donc déposer, mettre des mots, confier à d'autres.
Confier à d'autres, être entendu avec beaucoup de bienveillance, partager aussi avec d'autres qui vivent la même chose. Donc briser une forme de solitude. Alors je faisais référence à une maman qui avait un enfant qui avait un handicap psychique. C'est vrai que le handicap psychique isole énormément. C'est un handicap invisible, hein, donc on n'est pas forcément toujours amené à en parler. Aujourd'hui, la parole s'est un peu libérée autour de ce type de handicap et c'est une bonne chose. Mais ça reste très difficile. Donc, il y a briser la solitude, retrouver, partager avec des mamans qui vivent la même chose et puis se faire choyer, chouchouter. On va en parler quand on va parler du contenu d'une journée. Mais on essaye qu'il y ait à la fois tout ça.
J'aimerais savoir si, depuis la création de ces Journées des Mamans, Donc ça fait combien d'années, Sophie Gérard?
C'est la 16e édition cette
16e année. 16e année. Est-ce que les besoins, les attentes, le contenu, parlez-nous de l'évolution. Je pense que cette évolution est intéressante à plus d'un titre.
Tout à fait. Alors il y a eu deux types d'évolution, on va dire, depuis ces 16 années. Les premières journées, déjà géographiquement, on n'était qu'à Paris. Donc les mamans venaient de toute la France pendant quelques années. Aujourd'hui, on est dans 13 villes en France. Chaque année, il y a de nouvelles villes. Donc cette année, c'est Créteil, par exemple, la nouvelle ville. Il y a Nantes aussi. Donc 13 villes, on aura peut-être l'occasion de les citer tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de créer aussi un réseau de proximité. C'est-à-dire que les mamans qui vont se rencontrer à ces journées, ensuite peuvent être amenées à se revoir, créer des liens, échanger aussi des bonnes adresses locales,
des choses très concrètes.
Exactement. Donc ça, c'est une première forme d'évolution. Peut-être que la deuxième aussi, c'est notamment dans la partie de l'après-midi, le contenu. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi que ces mamans avaient aussi besoin de souffler, de se ressourcer, d'une certaine forme de légèreté. Il y a des mamans qui nous disaient, moi, si je prends une journée, je prends une journée pour moi, pour parler du handicap toute la journée. Et donc, aujourd'hui, ces journées, finalement, sont un peu... C'est par deux parties. Le matin, il y a un témoignage, suivi souvent de l'intervention d'une psychologue, qui donne un autre angle, enfin pour rejoindre un maximum de mamans. Le témoignage, j'entends toujours particulier. Ensuite, un groupe de partage, on fait ces groupes de partage. Souvent, on essaye de mettre ensemble des mamans, soit qui ont des enfants qui ont un peu le même âge ou le même type de handicap, pour essayer quand même que ce partage soit le plus possible entre père et hier. Oui. Voilà. Et l'après-midi, donc ça c'est l'évolution. Au début l'après-midi, il y avait surtout des ateliers de type qu'est-ce qui se passe pour les frères et sœurs, mon conjoint, donc plutôt intellectuel on va dire. Et aujourd'hui on va de plus en plus vers des ateliers un peu de plus légers, de détente. Ouais. L'année dernière par exemple, ou même cette année, les ateliers qui vont avoir lieu, il y a un atelier de colorimétrie par exemple.
J'allais dire, oui, vous pouvez faire quelque chose. Alors dites-nous la colorimétrie par exemple.
Colorimétrie par exemple, donc c'est Bénédicte Delvolvé depuis plusieurs années qui vient... généreusement offrir cet atelier aux mamans qui le souhaitent. Donc ça, c'est un atelier, on découvre quelles couleurs me vont, par exemple, et comment, Et c'est vrai que ces mamans ont aussi besoin de prendre du temps pour elles, de se poser,
de se regarder.
On avait un atelier aussi, par exemple, d'initiation à l'aquarelle. Il y a une maman qui se dit, moi, c'est pas du tout mon truc, elle a essayé. Et c'est une façon aussi d'avoir une vraie détente pendant une heure et demie, se concentrant sur autre chose, la couleur, tellement touchée de ça que... Finalement, elle a décidé de continuer pendant l'année. Voilà. Donc, il y a aussi un atelier de... Cette année, on va avoir un atelier sur l'ennéagramme par une formatrice. Comment apprendre à mieux se connaître à travers cet outil? Comment, du coup, mieux connaître les autres? Comment, finalement, ça, sur les relations interpersonnelles, c'est une aide. On a parfois des ateliers de vitose, on a des ateliers de danse. Il y a toujours un atelier spirituel aussi. Hein. Anne, tu l'as fait une année.
Donc oui, justement, Anne, une journée des mamans. D'abord, une question toute bête, mais comment font-elles pour se libérer une journée? C'est vous qui prenez en charge les enfants handicapés ou...
Alors, non. Très souvent, les mamans ont leurs enfants dans des structures.
Oui. Donc c'est quel est le rythme d'une journée des mamans? C'est 9h...
C'est 9h...
17h.
16h. Si on assiste à la messe, 17h.
D'accord, messe à la fin.
Oui, voilà.
Ceux qui veulent, c'est ouvert à tous.
Hein. Office chrétien des personnes handicapées, mais j'ai vu qu'on pouvait venir, c'est ouvert à tous.
Oui, bien sûr.
Ce qui est beau d'ailleurs, parce que
et y a toujours...
là aussi on peut se dire, bon j'y vais, moi je suis pas, et puis finalement on voit.
Oui, oui.
Très important. Il y a un langage universel qui touche le cœur de la mère, et avant de toucher autre chose. Donc c'est
alors
important.
Dites-nous Anne, comment ça peut se passer là? Si dans nos auditrices, des mamans sont hésitantes, qu'elles voient un petit peu ce qui les attend.
Ce qui est intéressant dans ces journées... c'est que on gagne beaucoup de temps. C'est-à-dire que on peut parler de ce que l'on vit sans avoir à se justifier, sans avoir à raconter ce qui est irracontable plutôt. C'est-à-dire que quand on parle de notre enfant handicapé avec quelqu'un qui n'en a pas, qui ne connaît pas le sujet, on reste très pudique, on reste très soft on ne développe pas parce que c'est trop compliqué. Dire par exemple, tiens, j'ai été obligée d'attacher ma fille hier parce qu'elle se mordait trop.
Ouais.
On ne le dit pas.
Ouais.
En revanche, c'est un lieu où, où ce temps-là est gagné parce qu'il y a une data, une donnée commune entre toutes ces mamans et où on ne se juge pas et on peut se livrer très facilement, très rapidement, sans avoir expliqué, parce qu'on sait ce qu'on vit.
Donc ça, des journées où vraiment on gagne du temps parce que on va à l'essentiel. Oui. Voilà, il s'agit pas non plus, c'est pas une consultation. Hein,
non,
donc,
c'est ça. Mais on peut déposer. En fait, ce que disait Sophie, c'est qu'on peut déposer et on a besoin de déposer ça parce que c'est très lourd à vivre. Mmh. C'est extrêmement lourd. Et d'autant que on le garde en soi parce que on peut pas le raconter. Donc là, on peut le déposer et c'est entendu. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Enfin voilà, on peut le déposer, en gagnant ce temps parce qu'on vit toute la même chose. Et puis il y a cet aspect de témoignage aussi dans lequel on peut se retrouver et puis voir aussi comment la personne s'en sort, quels sont ses ressorts, c'est très enrichissant.
Vous disiez tout à l'heure, Anne, c'était un endroit où, pour une fois, je venais en tant que mère. On avait déjà témoigné ensemble, etc. Oui. Mais est-ce que dans ces journées où cela a-t-il lieu à un autre moment, on aborde la fragilité du couple, l'isolement, les différences de rythme? Alors, vous l'abordez, ça, à ce moment-là, ou c'est pas trop
pas spécialement on l'a... Non, parce que c'est vraiment vu sous l'angle de la femme et de la maternité. Mais en revanche, c'est une journée qui révèle de grandes solitudes. Il y a beaucoup, on découvre combien la solitude de certaines femmes est grande et combien parfois les maris sont absents et partis. Donc ça, c'est effectivement une réalité. À côté de laquelle
Sophie
on ne peut
Gérardin.
Pas passer.
Oui, oui, ce qui me vient en tête quand je pense à ces groupes de partage, c'est vrai que dans ces petits groupes où les mamans se retrouvent à 5-6 après la partie témoignage, on met toujours une petite boîte, du mouchoir.
Mais
des petits bonbons.
Il doit y avoir tellement de larmes.
Exactement.
Oh, j'ai pensé au mouchoir, je me disais. Et voilà. On doit tellement tenir.
C'est vrai. Et c'est bien justement de pouvoir lâcher les vannes. Là, on a le droit. On a le droit de pleurer. On a le droit de laisser sortir ses émotions. Sans jugement. Donc, on met toujours ce paquet de mouchoirs. On a le droit de pleurer.
Et de rire aussi. Hein.
Ouais,
parce qu'on peut rire sans crainte des handicaps. Nous, on rit beaucoup du handicap.
Et des bonbons.
Son comportement, mais...
Vous pouvez peut-être vous l'autoriser, justement, entre mère...
Parce que ça peut être choquant pour d'autres personnes.
Ailleurs,
mais là,
vous ne le feriez pas.
Absolument.
Là,
absolument.
Okay. Et les bonbons, très bonne idée.
Voilà, les bonbons, parce qu'on veut aussi apporter de la douceur, du réconfort. Voilà, donc c'est...
Et donc, il y a un déjeuner aussi qui peut être un moment un peu où elles se mettent les pieds sur la table pour une fois.
Très convivial, on fait en sorte que ce soit beau, que ce soit bon, qu'on ait du temps long.
Ouais.
On s'est rendu compte au fur et à mesure, justement, qu'il fallait mieux faire un atelier l'après-midi qui dure 1h30, 2h, où on prend son temps et avoir du temps long au déjeuner, pouvoir parler au café. C'est un moment très important, ce temps convivial du déjeuner, voilà, pour des échanges plus libres. Et pour nous, en tant qu'organisatrice, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur de prendre soin, de faire, par exemple, un petit cadeau. Par exemple, on trouve dans son assiette une petite surprise, des petites choses comme ça qui sont une façon de prendre soin des mamans.
J'aimerais aussi que vous nous aidiez, toutes les deux, avec cette expérience de vie que vous avez, vous-même, Anne, Sophie, à travers toute l'écoute dont vous faites bénéficier les personnes qui en ont besoin. Parmi nos auditeurs, dans nos familles, nous avons bien sûr le handicap d'enfants, de personnes plus âgées. Vous, en tant que mère, que maman, qu'est-ce que vous attendez de l'extérieur, de la famille proche, voyez, des amis et de la famille proche? Qu'est-ce que vous attendez, en fait?
C'est une question qui reste toujours très problématique pour des parents d'enfants handicapés. Parce que généralement, on n'attend rien.
Oui.
Dans le sens où on ne veut surtout rien imposer aux autres. Parce qu'on sait combien, quelle est la difficulté de ce que l'on vit. Et précisément, moi j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter de l'aide parce que je n'imaginais pas imposer ce que je vivais à quelqu'un que j'aimais ou quelqu'un d'autre, en me disant c'est impensable. Donc, peut-être que les proches... De ces familles-là peuvent s'y prendre autrement en disant je peux témoigner de l'expérience que j'ai eue moi-même. Un jour j'ai une amie qui est arrivée et qui m'a dit, ma fille avait 14-15 ans, ça commençait à être vraiment difficile, elle est arrivée chez moi en disant, tiens, j'ai un cadeau à te faire. Et c'était une grande enveloppe avec un papier dedans, un grand soleil et puis des noms de famille. Elle m'a dit, et c'était intitulé « Les dimanches de Jeanne ». Et elle me dit, voilà, je t'offre les dimanches de Jeanne. Et donc, elle avait contacté, sans m'en parler, plusieurs familles autour de moi pour prendre en charge ma fille, notre fille, une ou deux fois par mois, et faire en sorte qu'une famille l'accueille et vive un dimanche avec elle. Voilà.
C'est directement inspiré de « À bras ouverts ».
Alors, c'est assez différent dans le principe, puisque ce sont des amis
oui,
proches.
Oui, proches, mais c'est l'idée.
Mais c'est simplement, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas demandé d'aide, elle m'a offert un cadeau. Et un cadeau ne se refuse pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à accepter de confier ma fille, parce que c'était un cadeau, je me suis dit, je ne peux pas refuser.
Et parce que ça aurait été difficile, en fait. Oui. Vous vous disiez, alors comment vont-ils faire? Mais à 4 heures, elle est très énervée.
Alors effectivement, j'ai fait un mode d'emploi. Hein. Ouais. j'ai fait un mode d'emploi que j'ai photocopié pour toutes les familles. Et après, ils m'ont dit, c'est bon, on s'en occupe.
Ouais.
Quoi qu'elle fasse, on s'en occupe.
Donc il y avait un abandon également. Et ça vous a conduite à l'abandon.
Oui. Ouais. Et c'est un grand service qu'ils m'ont rendu, enfin qu'ils nous ont rendu. Parce qu'avec un enfant comme ça, on ne maîtrise rien et précisément, on veut tout maîtriser.
Oui, ce que j'entends, Anne, dans ce que vous dites, c'est que si ma question était, en tant que proche, comment procéder à l'égard d'une famille, d'une mère isolée avec son enfant handicapé? Il ne faut peut-être pas attendre qu'elle demande parce qu'elle ne demandera pas, donc j'y vais.
Ouais.
Je lui propose. Spontanément, moi, j'aurais dit... Eh bien, dis-moi ce que je peux faire, je suis à ta disposition. Mais en fait, elle ne répondra pas forcément.
Elle ne répondra à rien. Enfin, ouais, je me débrouille.
Qu'est-ce que vous en dites, Sophie Girardin?
Oui, c'est très juste et j'ai une expérience personnelle du même ordre, hein, d'une maman de mon quartier qui a un enfant très lourdement handicapé. Cette maman était elle-même malade et on s'est juste réunis avec quelques amis. On était 8 dans un petit WhatsApp et ce qu'on lui a proposé, c'est le week-end, cet enfant avait besoin de marcher pour, par rapport à son handicap, c'était important. Et donc, le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, des petits créneaux d'une heure et demie de promenade, un petit WhatsApp tout simple. Et on a fait ça pendant 2 ans en se relayant. On était à 8. Ça a changé les week-ends de cette maman. Et pour nous, ça a été une belle découverte de ce Raphaël adorable. Et la plupart des femmes qui ont fait ça n'avaient jamais... ne connaissait pas du tout le handicap, n'avait jamais approché. Donc ça a été l'occasion d'une belle rencontre. Je dirais peut-être à ceux qui nous écoutent, quand on ne connaît pas le handicap, il faut vraiment oser la rencontre. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je dis ose la rencontre, pour les 60 ans de l'OCH, l'OCH a plus de 60 ans maintenant, on a mis en place quelque chose qui s'appelle Ose la rencontre, qui est en fait un programme qui permet à une personne porteuse de handicap qui a un rêve d'en parler. Par exemple, une personne que j'accompagne veut aller chanter dans un karaoké. Elle a déposé ce rêve et une jeune femme va y répondre en l'accompagnant. Voilà. Je donne cet exemple parce que vraiment, cette rencontre de personne à personne me paraît très importante, surtout pour ceux qui peuvent avoir peur a priori. En fait, souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, osez vous approcher des personnes, vous découvrir la beauté et la joie en fait, de ces rencontres.
Tout ce que vous nous dites là, tout ce que nous évoquons, c'est un survol parce que l'émission est courte. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'Office chrétien des personnes handicapées, l'OCH, och.fr. Vous aurez tout, vous aurez aussi une page sur la journée des mamans 2026. Je vais passer vite, mais dire tous les noms des villes dans lesquelles, pour cette 16e édition, il y aura une journée des mamans, des villes françaises. En mars, avril, mai et juin. Lille, Reims, Rennes, Lyon, Chambéry, Versailles, Nantes, Toulouse, Metz, Paris le 2 juin, Tours, Marseille, Créteil. Les amis, il y a une ville près de chez vous. Pensez à en parler aussi aux mamans isolées que vous côtoyez, qui peut-être vont bien apparemment aussi. Je pense que là aussi, il y a des mamans qui arrivent qui vont plutôt bien, d'autres qui sont... Il y a cet équilibre. Celle qui va plutôt bien s'aperçoit peut-être que ça ne va pas si bien. L'autre,
oui,
je ne sais pas.
Je suis frappée, ça me frappe dans ces journées, si pour dire une petite fleurétie, c'est de voir parfois les mamans qui viennent, notamment pour la première fois, le visage un peu fermé en arrivant le matin et qui repartent rayonnantes, épanouies. J'ai noté deux petites fioretti de phrases qu'elles m'ont partagées en repartant. Une qui me dit « J'y ai trouvé des pistes importantes pour passer d'un état de survie à la vie. Je me sens en paix. Je peux parler, être comprise. Je me sens moins seule. » Voilà, répit, joie, apaisement, ressourcement. Mmh. Voilà ce qu'on trouve sur ce que les mamans nous partagent après une journée comme ça. Mais moi, je garde vraiment les visages rayonnants en quittant ces journées qui sont, je pense, le signe que vraiment, ça répond à un besoin profond chez ces mamans. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de les faire connaître.
C'est très beau ces mots que vous extrayez des Fioretti sont très beaux parce qu'ils montrent qu'on repart différente, on repart plus forte. Le plus triste serait que ce soit une journée entre parenthèses qui rende le retour à la maison face aux réalités plus dur. Anne Telbourdel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme témoignage de ce côté-là ? On repart plus paisible.
On repart apaisé. Le terme de survie est très juste. On est avec un enfant handicapé, on est souvent en état de survie parce qu'on est très contrainte. On est assigné à tant de présence à ses côtés qu'on n'a pas le temps de temps pour soi. Et que c'est une journée qui permet, même en l'espace de quelques heures, de se regarder, de retravailler l'estime de soi, parce qu'on n'a pas le temps, souvent, de s'intéresser à soi. Et puis, de bénéficier de cette écoute bienveillante, de cet accueil doux, et de se dire que, ma foi, la vie continue aussi, et elle peut continuer de manière lumineuse, malgré cette difficulté du chemin. Et on peut faire avec autrement.
Il y a les mamans qui vont venir, qui parlent, et puis il y a toutes celles qu'on ne voit pas, qui sont toutes discrètes, toutes cachées. Comment pouvons-nous, là aussi je pense à nos auditeurs, leur donner des clés pour aller les rencontrer, leur en parler, comment faut-il faire en gardant du tact, je ne sais pas, Sophie Gérardin.
Pour les confier à la journée, pour les convier, par exemple.
Ouais.
Alors la première chose déjà, c'est leur en parler. Beaucoup ne savent pas qu'elles existent. Voilà. Certaines aussi peuvent, n'hésitez pas, je redonne le numéro du service Écoute et Conseil, parce que quelquefois c'est plus facile de commencer par téléphoner. Donc notre numéro c'est le 01 53 69 44 30. Ça, je peux vous témoigner combien de mamans nous appellent et combien cette écoute déjà est très importante pour elles. Après le venir avec une amie, peut-être que
oui, j'allais dire que oui. S'encourager à deux, venir à deux, ouais. c'est déjà une clé majeure importante. Voilà.
C'est fréquent
parce que la solitude est une crainte.
Oui. Ouais.
Notre émission va prendre fin. C'est un tremplin, c'est un élan, c'est une lumière sur ce si bel outil plein de charité. Dites-nous en deux mots de quoi l'OCH pourrait avoir besoin. Est-ce que vous cherchez des bénévoles? Est-ce que vous cherchez des moyens de communication? Dites-nous, Sophie Gérardin, comment nous pouvons vous aider?
Alors, je pense à deux choses.
Oui.
D'abord, on ne vit que de dons.
Oui.
Donc, c'est vrai que toute cette action n'est possible que grâce à votre générosité. On n'a aucune subvention.
Donc, l'OCH est une fondation. Donc, bien sûr, chers auditeurs, on vous le dit toujours, soutenez Radio Courtoisie qui permet ces émissions et qui permet de mettre la lumière sur toutes ces belles initiatives. Voilà. Et puis, allez voir comment vous pouvez aussi soutenir la fondation OCH.
Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a parfois besoin de bénévoles. Je pense notamment à la session de Paré cet été. Que vous avez vécu, je crois, où là, on a des jeunes professionnels ou étudiants voilà, qui viennent se mettre au service d'une personne porteuse de handicap pendant cette session. Cet été, c'est du
19 au 23 juillet,
c'est ça.
2026, à Paray-le-Monial. Il y a cette session qui est organisée en partenariat avec l'OCH, une session de l'Emmanuel. Je peux témoigner du fait que, me trouvant souvent à Paray-le-Monial à cette période, la ville même prend une autre couleur, une autre ambiance avec toutes ces personnes, avec leur handicap si varié, les familles qui viennent se retrouver, les discussions que l'on voit aux quatre coins de la ville. Et là, on sent vraiment quelque chose de très puissant. Donc, regardez cela aussi, chers amis. Et on finira peut-être là-dessus, sur cette proposition de session de l'Emmanuel en partenariat avec l'OCH. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de tous ces mots cristal, pépites que vous nous avez livrés. Et tous les visages de maman qui sont derrière vos regards par vos expériences respectives. On vous souhaite de très belles journées des mamans. Nous allons mettre sur la page de l'émission toutes les références. Moi, je suis disposée aussi à les partager à toute personne qui en fera la demande. Et merci infiniment. Bonne journée au pluriel.
Merci Valérie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je suis très heureuse pour cette troisième partie de l'émission Libre Journal de la Transmission de recevoir Rogatien d'Espagne. Bonjour Rogatien.
Bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation.
Alors Rogatien, vous êtes chef du chœur Efata, dont on a déjà parlé dans cette émission. On essaye toujours de bien faire résonner le tam-tam autour de toutes vos initiatives merveilleuses. Vous êtes organiste, vous êtes harmonisateur, diplômé de l'école du chœur grégorien de Paris, formateur à des sessions de chant grégorien. Je voulais dire tout ça pour que nos auditeurs d'abord vous situent bien et puis qu'on sache qu'on peut faire appel à vous pour de la formation. Alors, nous venons d'entendre, juste avant votre arrivée, un deuxième extrait de l'Offrande, le volume 2, qui vient de sortir, un enregistrement qui est interprété par le chœur Efata. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On vient d'entendre le Diffusa Est, et tout à l'heure, entre les deux premières parties, nous avons entendu le Chant de la Promesse, qui est magnifique. Et là, Diffusa Est, magnifique, c'était céleste. Alors, parlez-nous un petit peu de cette nouveauté.
Oui, merci beaucoup. Alors, le disque, donc l'Offrande, c'est un disque donc, qui vient de paraître chez Bayer Musique, et nous avons donc fait paraître deux volumes qui réunissent chants d'assemblée populaire, mais réharmonisés avec donc des arrangements pour chœur qui permettent à la fois de faire chanter l'assemblée et en même temps de faire entendre la richesse de la polyphonie qu'un chœur peut donner à entendre justement. Et donc l'idée c'était voilà de rassembler à la fois des polyphonies chorales assez facile, je dirais, et à la fois des chants d'assemblée harmonisés pour donner envie aussi à des chœurs liturgiques de s'emparer de ce répertoire, de les inciter à chanter avec l'assemblée, voilà, pour avec comme seul objectif la beauté de la liturgie et le fait de l'idée que la musique permet de nous rapprocher du Seigneur.
Et vous êtes tout à fait dans notre thème d'émission, la transmission. parce que ce sont des chants que l'on chante, le chant de la promesse par exemple, c'est quelque chose qu'on chante depuis longtemps, que l'on connaît lorsqu'on est scout. Voilà. Et là, il est harmonisé différemment, on peut chanter dessus la mélodie classique. Hein. Je trouve ça, d'une certaine manière, je trouve ça, vous nous les révélez à nouveau, et ça a un côté très humble aussi. Et ça, c'est, dans la transmission, c'est un élément très important, l'humilité. Et l'humilité d'être partie de l'existant. Voilà, plutôt que de dire oh, on va vous produire des choses à tomber par terre, eh bien non, on part de l'existant. Donc ça, bravo, c'est déjà, je pense, une belle caractéristique du cœur Efata. Mais alors, si je vous ai demandé aujourd'hui, Rogatien, de nous consacrer un peu de temps, c'est pour nous présenter ce nouveau projet que vous avez qui s'appelle le Fou d'Assise. Alors dites-nous ce qu'est une cantastoria et dites-nous comment l'idée est venue et comment vous le mettez en place.
Alors, donc, comment l'idée est venue? Déjà, c'est donc en 2026, l'année 2026 marque un anniversaire très important pour l'Église, pour le monde, parce que c'est les 800 ans de la mort de Saint François, qui fut quand même un des personnages les plus marquants, les plus exceptionnels que la Terre ait porté. Et donc, cet anniversaire nous a conduit à tourner notre regard vers cette figure lumineuse, inspirante. Et donc déjà pour nous c'est une grande joie d'avoir pu un petit peu avoir Saint François comme compagnon de route pendant ces quelques mois de 2026. Et donc il y a cet anniversaire des 800 ans et puis il y a le fait aussi que Saint François nous parle en tant que musiciens parce que c'était un poète, un troubadour. On sait que il utilisait beaucoup les chants comme disent les historiens en lingua gallica, donc en langue gauloise en quelque sorte, en parcourant les chemins, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Voilà, il y avait toujours c'était un vrai rayon de soleil et il utilisait beaucoup la poésie et la musique pour transmettre la joie, pour aussi enseigner pendant ces enseignements. Et donc, il y a cette joie liée à la musique qui nous a aussi beaucoup touchés. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'on peut essayer de, à notre tour, transmettre un petit bout de cette joie franciscaine.
Et la cantastoria, oui, dites-nous.
Ouais, voilà, la cantastoria. La cantastoria, c'est donc un projet que nous avons imaginé, c'est un peu une sorte de concept qui vise à renouveler l'expérience du concert, notamment à destination de ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter en concert le chant choral. Le chant choral, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est vraiment de la musique qui est faite uniquement avec la voix, uniquement avec l'instrument que nous avons tous reçu à notre naissance. La cantastoria, c'est une forme... En fait, le mot cantastoria signifie chanteur d'histoire en italien. C'est une forme théâtrale qui a été un peu oubliée, dans laquelle un interprète racontait ou chantait une histoire avec une série de gestes et d'images. Et donc, nous avons voulu nous inscrire dans cette longue tradition de conteur d'histoire en essayant de revisiter la forme pour l'adapter à notre siècle et lui donner une expression un petit peu renouvelée. En fait, tout simplement, la cantastoria s'appuie sur un livret. Un livret, donc c'est un texte littéraire qui est écrit et qui est destiné à être mis en musique. Et ce livret, il a ceci de particulier, c'est qu'il est écrit en français, mais il intègre dans son déploiement, dans sa narration, des pièces chorales déjà existantes. Donc, notre idée de cantastoria, c'est le but, c'est de faire aimer un répertoire choral déjà existant. Donc là, on aura des pièces de Monteverdi, de Bach, de Mendelssohn, puis d'auteurs un petit peu moins connus comme Albert Becker, des grands compositeurs qui ont marqué le répertoire choral, et on les intègre dans une grande histoire écrite et composée pour l'occasion en français, avec des personnages qui permettent d'incarner vraiment l'histoire. On aura Saint François, on aura le père de Saint François, on aura le Christ, on aura Sainte Claire, voilà, des personnages qui permettront vraiment de donner vie à cette histoire, qui sera chantée en français, qui sera surtitrée. Comme ça, l'auditeur pourra vraiment s'identifier à des personnages et voilà, tout ça, avec aussi une mise en lumière, une scénographie lumineuse, tous ces moyens vraiment visent à faciliter l'écoute de l'auditeur, hein, qui peut être néophyte, et lui permettre d'aimer, de mieux comprendre la musique chorale.
Vous êtes dans la transmission, pourtant vous êtes tous très jeunes. Vous-même, Rogatien d'Espagne, vous êtes un très jeune chef, très talentueux, vous avez avancé à grandes enjambées, mais vous vous inscrivez tous dans une démarche de transmission. C'est ça, je pense, que je trouve très touchant chez vous. Quand je dis vous, c'est le cœur et Fata. Ce cœur et Fata, combien de personnes, depuis quand? C'est un cœur mixte.
Le cœur, c'est un ensemble, donc un ensemble vocal qui est composé d'une bonne trentaine, entre 35 et 40 chanteurs, qui sont tous bénévoles et qui ont pour la plupart, pour la grande majorité, des études ou un métier à côté. Donc c'est vraiment des jeunes chanteurs passionnés pour qui la musique est un point de repère dans leur vie et qui aiment et ont une telle passion de cet art, de ce chant choral, qu'ils veulent le transmettre parce qu'on est conscient que ça apporte beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup d'espérance, la musique.
Donc vous êtes des jeunes de votre temps, hein, vous ne vivez pas en cellule. Et vous avez déjà cette expérience de transmission. J'aimerais bien recueillir auprès de vous, Rogatien d'Espagne, peut-être quelques fioritis de gens qui ne s'étaient jamais arrêtés pour écouter des polyphonies, pour le grégorien, et à qui ça a ouvert un chemin merveilleux.
Alors, plusieurs choses par rapport à l'aspect purement musical. C'est vrai qu'on a très beau retour, même parmi les chanteurs, des chanteurs qui sont arrivés au début de l'aventure et qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, que ce soit dans le grand répertoire sacré, comme on dit, ou même le chant grégorien, effectivement. C'est cette musique vraiment qui peut transformer des vies. Et puis, plus récemment, après un des concerts du Chemin de Dismas, c'était pareil, une cantastoria que nous avions donnée l'année dernière au sujet de l'espérance.
L'année dernière, c'était
une année qui a été placée. merci, c'est gentil. Donc, une année qui a été placée par le pape François vers le thème de l'espérance. Et nous avions donné un concert qui s'appelait le Chemin de Dismas. Et à l'issue d'un concert d'été que nous avions donné en Normandie, un monsieur était venu me voir à la fin, vraiment en larmes. Il avait du mal à trouver ses mots et il m'avait confié que la musique avait vraiment touché avait touché son cœur parce qu'il avait accompagné cette même année un jeune qui avait donné fin à ses jours et qu'il avait trouvé dans ce chemin de Dismas et dans tous ces grands maîtres de polyphonie une petite lumière, un petit bout de réponse. Et ça l'avait vraiment réconforté. Et ça, nous, on était juste là comme des tuyaux, hein, comme
des canaux,
Teresa,
des canaux
à transmettre,
ouais.
Des canaux, voilà, ouais. C'est ça. Et de voir que la musique de ces grands génies peut et touche encore aujourd'hui, c'est extrêmement encourageant.
Donc votre grand projet en ce moment, c'est le Fou d'Assise. Cette cantastoria, on l'a compris, avec à la fois du récitatif joué, ça va être très joyeux, et de belles pièces interprétées par le chœur et Fata. Où cela va-t-il se dérouler et selon quel mode? Parce que je vois sur votre présentation entrée libre. Alors la présentation, les amis, vous pouvez la retrouver sur le site Chœur et Fata. Cœur et Fata, tout accroché, cœureetfata.com, le Fou d'Assise. Là, vous aurez toutes les informations. Et donc, attendez, vous êtes peut-être bénévole, mais vous avez des instruments, vous avez un lieu, vous avez du transport, vous avez du travail. Comment faites-vous pour avoir des entrées libres? Sont-elles toutes libres d'ailleurs? Expliquez-nous.
Alors, effectivement, nous, c'est vraiment un des piliers du cœur depuis le début, c'est de permettre des concerts à entrée libre pour garantir un accès le plus large à ce trésor de la polyphonie sacrée. Et comment on fait? Depuis septembre, là, on a lancé une levée de fonds pour justement permettre ces entrées libres. Donc, on avait un budget de 55 000 euros ou 60 000 euros. Ouais. Et donc, nous avons été, on a aussi des subventions publiques et puis on cherche encore des sous. Donc, si parmi vos auditeurs, certains cherchent encore des endroits après avoir donné à votre radio.
Merci, Rogatien. tellement fière de donner le micro à des jeunes comme vous, comme d'autres qui lancent des initiatives merveilleuses parce qu'elles nous donnent de l'espérance et que concrètement vous retroussez vos manches selon vos talents. Hein. Donc voilà, Radio Courtoisie, très fière d'être à vos côtés, à soutenir aussi. Mais selon quel mode pouvons-nous vous aider ? Dites-nous.
Alors déjà, en venant nous écouter. Donc, c'est les dates, c'est les 12, 13, 14, 19 et 20 mars à 20h30 à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et donc, c'est pour vivre vraiment une expérience de concert très, très riche avec une mise en lumière, une scénographie lumineuse, un chœur et un orchestre, des solistes et tout ça. Donc, ça va être formidable. Et pour nous soutenir concrètement, donc, vous pouvez nous soutenir sur le site web à la sortie des concerts. Vous pouvez aussi vous procurer nos disques. Qui sont tous en vente sur notre site.
Dont l'offrande dont on a écouté deux extraits.
Exactement.
Donc nos auditeurs ont pu entendre la qualité vocale de votre travail. Voilà, on peut acheter vos disques, on peut se rendre. Alors, vous avez dit les dates un peu vite, il reste de la place pour tous les concerts indiqués sur le site ?
Bien sûr, oui. Bien sûr, et il n'y a même pas besoin de réserver sa place. Vous venez et il y aura de la place pour tout le monde.
Alors, c'est le jeudi 12 mars. Le premier concert est à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Entrée libre, mais il faut quand même réserver ou... Non, on arrive...
C'est pas nécessaire.
Revanche, je peux arriver au dernier moment. Oui.
C'est ça, mais il ne faut pas venir trop tard.
D'accord.
Voilà, il faut prendre un petit peu d'avance parce que... pour être sûr d'avoir une place.
Vous chantez à nouveau le vendredi 13 mars au même endroit,
voilà,
le samedi exactement. 14, puis le jeudi 19 mars pour la Saint-Joseph, et le
exactement.
Vendredi 20 mars. Donc, chers amis, exactement. Rendez-vous sur le site coeureetfata.com, soutenir le projet Le Fou d'Assise pour retrouver toutes ces dates. De toute façon, vous les trouverez sur le site de Radio Courtoisie. On va mettre le lien. Il est déjà mis, d'ailleurs. Le Fou d'Assise. Donc, vous avez un récitant qui est un peu acteur ?
Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle un opéra. C'est-à-dire qu'on s'inscrit plutôt dans la tradition de l'oratorio. L'oratorio, c'est le pendant sacré de l'opéra. Donc, c'est une histoire avec des personnages, avec différents épisodes, différents lieux, etc. Mais il n'y a pas à proprement parler de costumes, de décors, de mise en scène. On a en fait pour seul décor la beauté architecturale du lieu avec toute sa transcendance. Et donc ça, c'est aussi une grande joie de pouvoir jouer et chanter dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est une église vraiment chargée d'histoire et une très belle acoustique, très belle architecture. Donc
des artistes.
Exactement. En revanche, on a quand même cette scénographie lumineuse, donc on a tout un jeu de lumière qui permet aussi de faciliter la compréhension de l'histoire. On a quand même une mise en espace pour essayer de tirer tous les bénéfices de cette acoustique, qui n'est pas la même en fonction du lieu et de l'endroit où on chante dans l'église. Mais ce n'est pas non plus une scène d'opéra. Voilà, on essaye de s'inscrire aussi dans cette sacralité du lieu pour permettre aussi, pour nous laisser porter par cette transcendance.
Donc on l'a compris, ce sont des concerts qui sont entièrement libres, on peut venir comme cela, on peut amener des gens qui peut-être ne mettent pas les pieds dans une église et qui en tout cas n'ont pas l'habitude du chant. Et comme vous avez déjà fait ça, moi je voulais vous demander une question un peu piquante. Hein. Est-ce que le fait, d'abord deux questions piquantes. La première c'est, Rogatien d'Espagne, c'est par votre expérience passée de concert libre, est-ce que effectivement vous avez vu des gens qui ne seraient pas venus, qui du fait de la gratuité sont venus ? Est-ce que vraiment ?
Oui, vraiment. Vraiment. Non, mais vraiment, on a par exemple Il y a 2 ans, nous avions donné un concert qui s'appelait La Passion sur Saint-Jean en concert sur toile.
Ah oui, c'était extraordinaire. Donc, avec les toiles de Bruno Desroches. Extraordinaire. Son Chemin de Croix qui est à Saint-Nizier, à Lyon.
À Lyon, ouais, c'est ça. Et donc, nous avions un vieux monsieur qui était au Resto du Cœur et qui avait pu venir les 3 fois. Et il était venu me voir encore une fois, vraiment très ému, les larmes au bord des yeux. Il m'avait dit, mais je suis tellement heureux d'avoir pu écouter ce chef-d'œuvre qu'est La Passion selon Saint-Jean, parce que à chaque fois quand les concerts sont entrés payants, je peux pas venir, quoi. Donc on a ce retour là récemment. On a eu la grande grâce de pouvoir chanter notre Chemin d'Ismas dans la Nuit de l'Espérance qui avait été organisée avec la paroisse Saint-Ambroise pour les 10 ans des attentats du 13 novembre. C'était une grande soirée en hommage à toutes les victimes, et aussi qui se voulait un peu une sorte de réponse, de chemin proposé par la paroisse, par l'Église, à toutes ces personnes qui vivent un chemin extrêmement douloureux, extrêmement sombre. Et là, on a eu aussi de très, très, très beaux retours là-dessus. Et donc, avec justement cette soirée qui s'adressait à des gens qui ont vraiment pas l'habitude d'écouter ce genre de musique.
Et vous, comme chanteur, vous le sentez, vous sentez cela quand vous chantez. Bon, vous vous dirigez, vous tournez le dos, mais vous sentez les ondes du public. Vous sentez une écoute différente. Dites-nous, c'est intéressant d'avoir votre expérience.
Extraordinaire. Ouais. Ah ouais. Je me rappelle d'avoir échangé justement avec un des solistes de La Passion selon Saint-Jean, qui lui a l'habitude de donner des concerts dans des grandes salles, etc., et qui m'avait confié justement que il avait trouvé cette écoute extraordinaire, que c'était très très impressionnant pour lui aussi de sentir cela. Ouais.
Le fait que ce soit gratuit, aujourd'hui, ce qui est gratuit dans l'esprit de nos contemporains n'a pas de valeur, il n'y a pas de travail derrière, vous voyez. Est-ce que vous ne prenez pas ce risque, vous, les jeunes du Cœur Ephata, en offrant ces concerts? Bon, on comprend bien que derrière, y a un besoin financier, hein, ça ne tombe pas de la lune, mais comme ça, dans la communication, vous dites un concert gratuit, est-ce que vous ne prenez pas le risque de dévaloriser votre travail?
Écoutez, peut-être, mais tout notre travail, justement, c'est de montrer qu'on est capable de sortir des belles choses. Et donc, on a un service de communication extraordinaire que je tiens à remercier ici, et qui essaye justement de mettre en valeur le travail de tous les chanteurs qui se donnent beaucoup de mal. Après, c'est le risque du métier, mais c'est notre créneau, et on vraiment... pour tous les retours qu'on a pour l'instant, en tout cas, on y tient vraiment. Et pour montrer que la musique chorale et ce chant choral, ce répertoire extraordinaire est accessible à tous, et il doit être entendu par tout le monde tellement il peut nous emmener très haut.
Vous faites vraiment canal. En cela, je trouve que vous nous donnez à tous une leçon aussi par cette joie du don, la valeur. Et c'est Benoît XVI qui parlait très très bien de la valeur de ce qui est donné. Vous voyez ? Et là aussi, c'est, je pense que c'est assez prophétique en fait tout ça. Et votre approche, elle est assez prophétique. Donc, bravo pour toute cette inspiration. Ce livret dont vous nous avez parlé, qui est un soutien au spectacle, les spectateurs l'auront entre les mains, ils pourront lire ce que dit le récitant, avoir les paroles des chants. C'est vous qui l'avez conçu aussi, ou dans l'équipe, vous avez des gens qui sont affectés à cette tâche-là?
Alors, le livret, ce qu'on appelle le programme en tant que tel, on a un petit livret de salle, comme on dit, comme on dit dans le jargon, qui permet justement, qui a beaucoup de notes explicatives, pour voilà, et on associe aussi tous les tableaux, les fresques magnifiques de Giotto, de la basilique d'Assise, qui retracent aussi tous les événements extraordinaires de la vie de Saint-François. Donc ça, effectivement, il y a un programme pour soutenir l'écoute. Et puis le livret, donc ce qu'on appelle le livret, c'est vraiment le texte littéraire qui a été écrit pour l'occasion. J'ai la joie d'avoir dans ma famille de très grands talents. Et donc, j'ai mes deux frères qui ont travaillé, dont un qui est prêtre, qui ont travaillé sur ce livret, l'un pour faire un peu la trame, le scénario, et l'autre pour mettre en mots, pour mettre en poésie tout cela. Et donc j'ai la grande chance d'avoir pu travailler avec mes frères là-dessus. Et j'ai un autre frère aussi qui met en scène le spectacle, qui met en lumière. Donc c'est une grande joie familiale. Et effectivement, l'auditeur pourra avoir, donc il y aura un écran de surtitrage, et donc le texte français ou la traduction de ce qui est chanté sera projeté en direct, voilà, vraiment pour favoriser l'écoute directe et pour que l'auditeur puisse aussi comprendre le travail du compositeur, comment le compositeur met en musique tel et tel mot, notamment dans la musique baroque de Jean-Sébastien Bach, une musique qui est très souvent figurée, qui permet ce qu'on appelle peu importe, pas besoin de rentrer dans les détails techniques, mais voilà, c'est cette musique figurée qui montre en fait tout le génie du compositeur, qui met en valeur tel et tel mot, qui met en musique en fait, et qui illustre, qui commente, qui ouvre aussi d'autres horizons aux mots. Et donc l'auditeur aura vraiment sera dans un cocon pour apprécier toute cette belle musique.
Alors, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie tous ces beaux rendez-vous que vous leur donnez au mois de mars? Dites-nous, Rogatien d'Espagne.
Donc, le Fou d'Assise en Cantastoria sera donné jeudi 12 mars à 20h30 à l'église Saint-Germain-le-Serrois. Et puis ensuite, le vendredi 13, le samedi 14, aux mêmes horaires et au même lieu. Et de nouveau, jeudi 19 mars et vendredi 20 mars, Saint-Germain-le-Serrois à 20h30 avec entrée libre, Cantastoria, le Fou d'Assise avec un chœur et un orchestre.
Nous sommes en période de carême, les catholiques sont en période de carême. Pouvez-vous dire que c'est un concert spirituel? Vraiment spirituel, vous voyez?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, parce que nous avons essayé de transmettre dans cette Cantastoria du Fou d'Assise on peut pas tout transmettre ce que nous donne Saint-François, mais voilà, quelques éléments saillants, quelques éléments importants de l'enseignement de Saint-François, que ce soit cette radicalité de la pauvreté, cette radicalité aussi de la vie donnée à Jésus. Ça, c'est vraiment, je pense, que ce que Saint François nous donne, Saint François qui est l'alter Christos, celui qui est sans doute que la terre est portée, qui est le plus ressemblé au Christ, tellement qu'il a même reçu les stigmates de la passion du Christ. C'est aussi cette soif de transmettre Jésus aux autres, cette soif de transmettre Jésus en terre musulmane, cette rencontre extrêmement bouleversante avec le sultan, cet amour de la création, où il voit, Saint François voit dans toute la création, dans toutes les créatures, le reflet de la beauté de l'œuvre et même de l'image de Dieu. Voilà, toutes ces choses-là que nous avons essayé de transmettre et qui font, je crois, de cette Cantastoria un vrai chemin spirituel.
Merci infiniment. Rogatien d'Espagne, merci.
Vous nous
rendez Saint-François merveilleux. On se dit que voilà, pour ses 800 ans, les 800 ans de sa mort, vous lui rendez un hommage magnifique. Rendez-vous à tous ceux qui peuvent être à Paris, à Saint-Germain-l'Auxerrois, du 12 au 20 mars. Et toutes les dates donc peuvent être retrouvées sur votre site Cœur et Fata. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Soutenez ces jeunes, les amis. On ne peut pas se morfondre, avoir peur et marcher les yeux sur nos chaussures, alors que tant de les yeux rivés sur nos chaussures, alors que tant de jeunes ont beaucoup à donner et le font avec beaucoup de talent. Merci beaucoup, Rogatien d'Espagne.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Chers amis du Libre Journal de la Transmission, cette édition va prendre fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous donner cette écoute active, amicale. Je prépare déjà l'émission pour dans 4 semaines et me réjouis de vous y retrouver.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Transmission dirigé par Valérie Daubigny, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 2 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.